Le 11 et 12 juin 2024, à l'occasion du colloque inter-ENS intitulé « L'égalité des chances, la diversité, l'ouverture », Cadécole est allé tendre son micro aux différents intervenantes et intervenants de ses deux premières journées à l'ENS de Lyon.
Bonjour Julien Grenet.
Bonjour.
Vous êtes donc économiste, chercheur au CNRS et donc à l'École d'économie de Paris. Et puis, lors de ce colloque, vous avez abordé la question finalement du recrutement des étudiants dans ces grandes écoles. Pour vous, et vous l'avez dit quasiment en ouverture, pourquoi cette question a pu émerger il y a une vingtaine d'années? Et pour quelles raisons on s'est saisi de ça aujourd'hui et pas avant?
On s'est saisi de cette question face au constat du manque de diversité dans le recrutement de ces écoles. Alors, selon plusieurs dimensions, la dimension évidemment de l'origine sociale, avec une très forte surreprésentation des catégories sociales très favorisées, mais aussi quand même le sentiment qu'il y avait une surreprésentation des élèves issus de milieux urbains, notamment des grandes villes et particulièrement Paris. Et enfin, une question plus spécifique quant à la sous-représentation des femmes dans une partie de ces écoles, et notamment les écoles d'ingénieurs, où typiquement elles représentent 25% des effectifs. Donc, pour toutes ces raisons, il y a eu une réflexion menée au début des années 2000 avec beaucoup de rapports, pointant, faisant ce diagnostic inquiet, qui ont débouché sur une charte qui a été signée en 2005 par la Conférence des grandes écoles et la Conférence des présidents d'université, charte pour l'égalité d'accès aux filières sélectives qui visait à encourager la mise en place de ces dispositifs d'égalité des chances qui, depuis cette période, se sont multipliés.
Alors, on va y revenir sur ces dispositifs et leurs effets. Mais avant ça, ces grandes écoles, derrière ce mot-là, il y a aussi une diversité d'établissements et d'offres de formation. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panel rapide de ces différentes structures ?
Alors c'est vrai, c'est un monde extrêmement divers. En fait, souvent, on associe dans l'imaginaire commun les grandes écoles aux écoles les plus prestigieuses, les plus connues, Polytechnique, HEC. En fait, c'est un monde extrêmement vaste où il y a pas que des écoles très sélectives.
C'est 230...
À l'époque, sur les dernières années de notre rapport, c'est autour de 230. C'est plutôt plus, autour de 300 établissements. Et puis...
Prenez le privé dans l'étude ou pas du tout?
Il y a les écoles privées qui sont dedans, qui se sont d'ailleurs beaucoup multipliées récemment. Mais disons, si on veut schématiser les choses, on a une moitié environ d'écoles de commerce et une autre moitié d'écoles d'ingénieurs, et puis d'autres écoles un peu plus spécifiques, l'école des chartes, les ENS, les UEP, qui sont une petite part des écoles. L'essentiel, c'est vraiment école de commerce, école d'ingénieurs. Alors, elles recrutent, elles ont des modalités de recrutement un peu différentes. Certaines recrutent à niveau Bac plus 3, donc qui recrutent sur concours exclusivement, typiquement les ENS. Et puis, on a des écoles qui recrutent juste après le bac, ce qu'on appelle les écoles post-bac. Alors, l'exemple typique, c'est les IEP qui recrutent, alors selon des modalités diverses, mais quand même souvent à concours, voilà, parmi les néo-bacheliers.
Et puis, il y a une diversité aussi dans l'exigence, ou si on reprend leur mot d'excellence, mais voilà, elles n'ont pas la même exigence, en tout cas, en termes de capacité ou de compétences scolaires.
Tout à fait. C'est-à-dire que souvent, on pense que toutes les grandes écoles sont extraordinairement sélectives du point de vue scolaire. La réalité, c'est que oui, beaucoup le sont. Dans les 10% des écoles les plus sélectives, il y a trois quarts de leurs élèves qui ont obtenu mention très bien au bac. Mais en fait, beaucoup de ces écoles, la moitié d'entre elles environ, en fait, ont des taux de mention très bien parmi leurs étudiants qui sont en dessous de 12-13%, qui est à peu près la moyenne des élèves qui sont au niveau bac plus 3, bac plus 5. Donc, en fait, c'est un monde divers. Il n'y a pas que des écoles qui sont scolairement sélectives. Et c'est notamment vrai pour beaucoup d'écoles de commerce, beaucoup de petites écoles de commerce, qui ne recrutent pas particulièrement parmi les tout meilleurs élèves, mais qui néanmoins offrent des débouchés très intéressants sur le marché du travail. Et c'est tout l'enjeu de l'accès à ces filières.
Donc n'empêche que ce que vous disiez au tout début, c'est qu'il y a aussi un poids, un facteur social, un facteur géographique et un facteur de genre qui pèse énormément et qu'on voit bien selon en général, pas spécifiquement sur la diversité des établissements que vous présentez, on voit le poids de ces trois critères-là.
Voilà, on voit qu'il y a... une surreprésentation très marquée du point de vue social des élèves de milieux de catégories socio-professionnelles très favorisées, c'est-à-dire les enfants de cadres, les enfants de professions libérales, professions intellectuelles, qui représentent à peu près les deux tiers des étudiants des grandes écoles, alors qu'ils ne représentent qu'un quart de la population, de leur cohorte. À l'inverse, les élèves de milieux sociaux défavorisés, c'est-à-dire enfants d'ouvriers, enfants de personnes sans activité professionnelle, c'est moins de 10% des étudiants des grandes écoles quand ils représentent 36% d'une cohorte. Et cette surreprésentation des milieux les plus favorisés, elle est évidemment d'autant plus importante qu'on va vers les écoles les plus sélectives. Presque 90% des élèves de l'ENS, d'HEC, de Polytechnique sont issus de catégories dites CSP++. Et à l'inverse, il y a moins de 3% d'élèves défavorisés parmi les étudiants de ces écoles. Donc vraiment une inégalité sociale d'accès extrêmement forte. Si on compare les chances d'accès à ces grandes écoles en fonction de son origine sociale, on l'a fait pour les élèves qui étaient, l'ensemble des élèves français qui étaient en troisième en 2005. Eh bien, 10 ans plus tard, quelle est la part qui a accédé à une grande école? C'est 1,6% des élèves de catégorie sociale défavorisée. C'est 16% des élèves de milieux très favorisés. Donc, un rapport de 1 à 10. Donc ça, c'est pour le social, c'est très marqué.
Parce que pour le géographique, c'est le poids de l'Île-de-France. C'est les deux tiers, si j'ai bien retenu.
Alors, pour l'Île-de-France,
tout compris, hein, Paris compris.
L'Île-de-France, on va dire que le chiffre le plus marquant, c'est que, alors que les bacheliers parisiens représentent 3% des bacheliers français, ils représentent un quart des élèves de l'ENS, Polytechnique, HEC. On retrouve cette surreprésentation des Parisiens et plus généralement des Franciliens dans toutes les grandes écoles. Et c'est un facteur qui, évidemment, tient à des dimensions, disons, d'offres scolaires. C'est-à-dire que beaucoup de grandes écoles et surtout beaucoup de classes préparatoires les plus sélectives sont en Île-de-France, sont à Paris, à proximité de ces écoles. Et évidemment, ce n'est pas le même coût géographique, psychologique que de faire sa prépa quand ses parents habitent à Paris, où on peut rester chez papa-maman, que quand à 18 ans, on doit quitter le foyer pour aller monter dans une ville qui coûte très cher. On n'a pas forcément ses réseaux d'amitié, ses repères. Et donc ça, c'est un facteur qui va peser quand même très, très lourd sur ces inégalités géographiques qui sont d'autant plus choquantes d'une certaine manière qu'elles s'expliquent très peu par les résultats scolaires. C'est-à-dire qu'on peut expliquer 10-20% des écarts entre Paris et le reste de l'île, et hors, les élèves hors Île-de-France, de ces inégalités géographiques par les résultats au bac. En fait, l'essentiel ne se joue pas là. Et c'est peut-être d'ailleurs dans la réception du rapport ce qui a le plus interpellé. Nous, on a eu beaucoup de retours à la fois d'étudiants qui avaient eux-mêmes fait cette expérience de dire je suis arrivé à Paris, j'étais le premier de ma famille à arriver, je suis rentré à la Sorbonne et tout le monde était extrêmement fier de moi. Et puis je suis rentré, on m'a dit mais en fait, tu sais, c'est pas là que ça se passe, c'est dans les prépas de la montagne Sainte-Geneviève. Et donc ça a été, pour beaucoup, ça a été vécu comme finalement une rupture d'égalité en disant mais d'abord, moi je savais même pas que ça existait, dans mon lycée il n'y avait pas de prépa, on m'a jamais parlé de ça. Et puis quand bien même, ça aurait été quand même très compliqué pour moi de faire ce choix. Donc, c'est, je pense, un facteur majeur qui appelle des corrections. Et puis, les inégalités de genre, c'est un peu différent. Ce n'est pas les mêmes déterminants.
Ça dépend aussi de la filière et de la discipline. Ah, voilà.
C'est-à-dire que les femmes sont sous-représentées dans les grandes écoles. Généralement, c'est 42% des étudiants des grandes écoles, alors qu'elles représentent 55% des étudiants de niveau Bac plus 3 à 5. Donc, il ne faut pas penser que le point de référence, c'est 50-50. C'est 55%. Elles ne sont que 42% dans les grandes écoles. Et ça s'explique intégralement par leur sous-représentation dans les écoles d'ingénieurs, qui elles-mêmes représentent la moitié des grandes écoles, où la part des femmes, elle plafonne autour de 30%, ça bouge très peu. Et c'est évidemment, c'est d'autres déterminants. C'est la place des stéréotypes de genre dans le choix des études scientifiques. Mais aussi, ça interpelle sur la question de, finalement, quand bien même il y a des différences dans les choix d'études, dans les préférences ou dans les stéréotypes qui peuvent conduire à ces choix, les écoles, les voies sélectives vers lesquelles se tournent les femmes, c'est-à-dire beaucoup les classes préparatoires littéraires, n'ont que très peu de débouchés en termes de grandes écoles. Et ça, c'est l'élément marquant. Les grandes écoles, c'est en gros pour moitié les écoles de commerce, pour moitié des écoles d'ingénieurs, mais il y a très peu d'écoles
littéraires.
Purement littéraires. Finalement, il y a les ENS, un peu les IEP, et puis voilà, ou les chartes, mais enfin, c'est tout petit dans le lot. Donc ce malthusianisme des grandes écoles littéraires est aussi un facteur qui amplifie ces inégalités de genre dans l'accès à ces filières.
Alors, vous avez fini en essayant d'identifier alors des leviers, c'est peut-être un peu présomptueux de penser qu'on va les trouver et que du coup on a la solution. Mais enfin, peut-être qu'il y a des choses qui sont, du côté des classes préparatoires et des modes de recrutement dans les classes préparatoires. Peut-être qu'aussi la diversité des classes préparatoires, parce qu'on parle de la diversité de ces grandes écoles, mais je pense qu'en face, il y a à peu près la même diversité et qui n'ont pas les mêmes fonctions, du coup. Mais quels seraient les leviers, peut-être, pour desserrer cet étau social, géographique et de genre?
Alors, je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur ce qui n'a pas tellement fonctionné jusqu'à présent. L'approche qui a été retenue jusqu'à aujourd'hui, à la suite de cette charte pour l'égalité des chances, c'était quand même beaucoup des initiatives très décentralisées, portées par certaines écoles, type cordée de la réussite, où on met en place des dispositifs type de tutorat, de mentorat, d'accompagnement de lycéens.
Dans les lycées. Hein.
Dans les lycées, plutôt défavorisés, pour les accompagner vers ce genre d'études.
Comme les conventions éducation prioritaire de
sciences. Alors ça, c'est une approche un peu différente, parce que les conventions éducation prioritaire, c'est vraiment, en termes de recrutement, ça a plutôt d'ailleurs plus d'effet, c'est-à-dire qu'on change les modalités de recrutement, mais l'essentiel...
Oui, mais on propose aussi aux élèves de préparer pendant l'année, voilà, il y a quand même du...
Donc ça existe aussi, mais c'est quand même l'essentiel des actions aujourd'hui, c'est ces cordées de la réussite. Bon. Du point de vue global du système, on ne voit aucune évolution dans...
Puisque vous avez montré une courbe à plat...
La composition sociale des grandes écoles est étonnamment plate depuis qu'on peut le mesurer, c'est-à-dire au milieu des années 2000, ça ne bouge pas d'un iota. Et donc, on se dit, ces dispositifs qui se sont multipliés depuis des milieux fin des années 2000, n'ont pas vraiment produit beaucoup d'effets, en tout cas pas mesurables statistiquement. Et puis, les études qui existent suggèrent que ce n'est pas si efficace. Alors, le problème, c'est quand même que tout ça manque beaucoup de coordination, de pilotage, d'évaluation. Beaucoup d'actions aussi portent finalement sur un point un peu tardif. Il y a aussi tout ce qui est fait par les écoles elles-mêmes. C'est porté par les grandes écoles, mais elles sont en bout de chaîne. Et bien souvent, elles sont tributaires du vivier d'étudiants qui candidatent à leur concours. Et quand on regarde dans le détail, ces inégalités sociales, géographiques, de genre dont on a parlé, pour l'essentiel, elles sont déterminées par le recrutement des classes préparatoires. C'est-à-dire que
on retrouve
exactement les mêmes inégalités dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où les classes préparatoires seraient plus ouvertes et puis il y aura un goulot d'étranglement au moment de l'entrée en grande école. Non, ça se passe à l'entrée en prépa. Et finalement, c'est resté largement le parent pauvre de ces politiques. C'est-à-dire qu'il y a eu assez peu de choses qui ont été faites du point de vue du recrutement de ces filières. Il y a une exception, c'est la mise en place de quotas de boursiers à l'entrée dans Parcoursup, ce qui est quand même une innovation importante, mais ces quotas restent très faibles. Ils s'appuient sur une définition de la catégorie boursier qui est extrêmement restrictive, c'est-à-dire que c'est les boursiers de lycée dont très très peu en fait, s'orientent vers ces filières. Et en fait, le point important, c'est qu'il paraît absolument nécessaire d'ouvrir le recrutement de ces classes préparatoires socialement, géographiquement, et puis évidemment selon le genre. Alors, il peut y avoir modalités possibles. Du point de vue social, je pense que les quotas qui ont été mis en place mériteraient d'être remontés, changer la définition de ce que c'est un boursier dans Parcoursup. Deuxièmement, il y a évidemment travailler sur l'autocensure. On voit que un élément important de notre rapport, c'est que moins de la moitié des inégalités sociales d'accès aux classes préparatoires s'expliquent par les résultats au bac. Donc il y a toute une partie inexpliquée qui renvoie à des facteurs psychologiques, des freins qui pourraient être levés en partie par des interventions dans ces établissements, mais pas portées par les cordées de la réussite, portées par le ministère lui-même, par le biais des données qu'il collecte.
Et du coup, on retrouve ce que Agnès Van Zanten présentait un petit peu hier sur le Texas et les 10% des meilleurs dans les établissements.
Alors ça, c'est effectivement... Alors, c'est une des modalités possibles. C'est ce qu'on appelait des mécanismes de discrimination positive. Alors, la France est plutôt pionnière dans ces dispositifs parce que elle a mis en place ses quotas de boursiers, elle en a mis en place pas seulement à l'entrée dans l'enseignement supérieur, il y en a aussi dans l'accès au lycée à Paris, il y a des quotas de boursiers, enfin c'est quelque chose qu'on pratique, qui est accepté. La question c'est le calibrage qui est quand même extrêmement insuffisant. Les dispositifs type 10% des meilleurs bacheliers sont quelque chose d'intéressant. Alors on va dire ça existe déjà le dispositif meilleur bachelier en France, mais la manière dont, d'ailleurs je crois qu'il a été supprimé cette année, la manière dont il fonctionnait en fait concernait très peu d'élèves, c'était moins de 6000, très tard dans le processus, ils avaient déjà fait leur choix, étaient déjà affectés, donc ça changeait pas grand chose au final. Sur la question des inégalités géographiques, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur comment ouvrir les prépas parisiennes et l'Île-de-France à des élèves qui ne viennent pas de ce territoire. Parce que si on ne veut pas qu'à la fin, on se retrouve avec 25% de Parisiens à l'IX, HEC, l'ENS, peut-être qu'il faut un peu ouvrir les classes préparatoires, peut-être sous la forme de quotas géographiques qui permettent d'ouvrir ces filières. Et évidemment, en complément, de redynamiser les grandes prépas des métropoles régionales qui ont beaucoup souffert de la centralisation des dossiers d'inscription via admission post-bac, via Parcoursup, qui ont finalement aspiré tous les élèves les plus performants de tous les lycées de France, laissant un peu péricliter certaines classes préparatoires, les grands lycées de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, qui ont plus de mal à placer des élèves dans les grandes écoles. Et ça, c'est quelque chose qui a des conséquences du point de vue social, géographique, parce que tout le monde n'a pas la faculté, n'a pas les moyens par sa famille de pouvoir monter à Paris, monter à Versailles pour les prépas qui y sont, pour préparer ses concours. Donc je pense qu'il y a un enjeu d'aménagement de la carte de formation qui n'est pas facile en même temps parce que...
Et politiquement risqué aussi
parce qu'il y a eu des tentatives dans le passé, ce qu'on a appelé les classes prépas de proximité, hein, qui avaient pour vocation de créer des classes préparatoires dans les villes moyennes. Alors, elles se sont développées, un rôle intéressant.
Mais qui ont une autre fonction, finalement.
C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas données pour mission vraiment de placer des élèves dans les grandes écoles. C'est-à-dire qu'elles placent des élèves dans des filières un peu plus sélectives à l'université ou des filières plus professionnalisantes et qui vont, évidemment, offrir des débouchés intéressants. Moi, je pense qu'il y a un étage intermédiaire qui est un peu délaissé aujourd'hui, c'est ces classes préparatoires des grandes métropoles qui mériteraient d'être davantage développées parce qu'elles ont une proximité sur le territoire avec ces étudiants, ces élèves qui sont issus de la région, de l'académie, et qui auront plus de facilité à y aller que de monter à Paris. Donc je pense que ça, c'est un élément assez essentiel. Et puis, je mentionnerai aussi la question du coût. Parce qu'évidemment, l'enseignement supérieur en France, bon, par rapport à d'autres exemples étrangers, les frais de scolarité sont plus faibles. Mais enfin, quand on regarde dans le cas des filières sélectives, ce n'est pas complètement vrai. Beaucoup de classes préparatoires de plus en plus sont privées. Les grandes écoles elles-mêmes, notamment les écoles de commerce, sont extrêmement chères, n'ont pas forcément d'exonération de frais de scolarité pour les boursiers. Il y a des frais d'inscription au concours qui jouent un rôle important. Et puis, d'une manière générale, il y a un développement de l'enseignement supérieur privé qui est coûteux donc, pour les étudiants, qui fait une barrière quand même et qu'on retrouve dans les données. Hein. C'est-à-dire que ces écoles-là sont très socialement sélectives et beaucoup moins scolairement du point de vue des résultats.
Et du coup, on ne les a pas intégrées encore dans le raisonnement général de ces grandes écoles et classes préparatoires pour avoir une vie d'ensemble.
C'était une partie un peu périphérique du système. Ça devient beaucoup plus central aujourd'hui. Donc ça pose des questions. On manque encore un peu de recul dans les données parce que ce n'est pas toujours très bien mesuré ce phénomène. Mais enfin, on commence à avoir davantage d'informations. Et donc, ça milite quand même pour une politique d'aide financière beaucoup plus agressive que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des montants de bourse plus importants qui permettent de couvrir aussi le coût de la vie, parce que c'est pas suffisant de dire vous payez pas les frais de scolarité. Mais enfin, vivre à Paris, vivre dans une grande métropole, ça coûte cher. La question du logement étudiant, évidemment. Et puis, la question des aides à la mobilité géographique. Dans le cas des filières sélectives, c'est particulièrement important parce que beaucoup de ces étudiants vont devoir déménager. Et aujourd'hui, les aides à la mobilité sont principalement réservées aux étudiants de master, sont très peu accordées à des élèves en premier cycle. Ça pose quand même un vrai problème pour l'équité géographique d'accès à ces filières. Donc, je pense que sur ce volet, financier, barrière géographique, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et évidemment, ça a un coût, mais c'est quand même le prix à payer pour avoir des filières de formation des élites qui sont un peu plus représentatives de la population qu'elles ne le sont aujourd'hui, puisqu'on sait bien que tout ça pose des problèmes par la suite.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À la production, Régis Guyon, et à la réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt sur Cadécole.